L'avenir, c'est nous.
L'avenir, c'est nous.
Je m'appelle Soke Saryena. Pour moi, l'avenir, c'est l'apprentissage. L'avenir, c'est nous.
Quand on veut, on peut.
L'avenir, c'est nous.
Je m'appelle West. Pour moi, l'avenir, c'est l'ambition.
L'avenir, c'est nous.
Je m'appelle Esther. Et pour moi, l'avenir, c'est le bonheur.
L'avenir, c'est nous.
Je m'appelle Achille. Et pour moi, l'avenir, c'est la jeunesse.
L'avenir, c'est nous.
L'avenir, c'est nous.
L'avenir, c'est nous.
Je m'appelle Lovensky Lorrain. Pour moi, l'avenir, c'est la confiance en l'autre.
L'avenir, c'est nous.
Je m'appelle Mélissa. Pour moi, l'avenir, c'est la persévérance.
L'avenir, c'est nous.
Je m'appelle Malika. Pour moi, l'avenir, c'est la force.
L'avenir, c'est nous.
Je m'appelle Karine. Pour moi, l'avenir, c'est la solidarité.
L'avenir, c'est nous.
Deux mots, jeunesse et émancipation.
Je m'appelle Siwan. Pour moi, l'avenir, c'est la réussite.
Je m'appelle Gaëlle. Et pour moi, l'avenir, c'est le succès.
Nous sommes 11 jeunes de Kourou. Nous avons entre 17 et 23 ans. Nous ne venons pas des mêmes quartiers, des mêmes milieux sociaux et n'avons pas la même culture. Mais cette différence est notre force. Ce qui nous unit est de trouver notre voie professionnelle. Grâce au programme d'insertion par l'art de l'Entonnoir Théâtre, nous avons gagné en confiance, nous développons nos capacités et nous apprenons à nous adapter les uns aux autres, mais aussi au monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous travaillons en équipe et nous sommes un groupe solidaire.
Ensemble, nous avons choisi un nouveau mode d'expression, loin des réseaux sociaux, le documentaire radiophonique, pour nous adresser à toutes les générations, où qu'elles soient. Il porte nos rêves et nos espérances. Il symbolise aussi le premier enseignement reçu à l'entonnoir. Quand tu arrives dans un nouvel endroit, avec des personnes qui ne te ressemblent pas, n'essaie pas de jouer un rôle, sois toi-même pour rencontrer l'autre. Alors, écoutons-nous. Partageons nos idées, nos différences aussi et respectons-nous car parfois, nous avons le sentiment de ne pas être reconnus. Pourtant, l'avenir c'est nous.
Dans ce documentaire, vous entendrez nos voix avec nos singularités, notre sincérité. Vous écouterez nos paroles et celles de ceux qui nous ont raconté leur histoire comme Valentine Bonifaci, des premières de Guyane. Vous découvrirez des héros, des héroïnes du quotidien. Vous vous interrogerez comme nous sur le racisme, la sexualité, le consentement ou les stéréotypes de genre.
Apprendre les uns des autres, c'est changer de regard. C'est construire ensemble une société, moins loin des autres, mais plus proche de nous. L'avenir, c'est nous. Un documentaire de l'Entonnoir Théâtre réalisé par Malika, Axel, Lovensky, Gaëlle, Karine, Esther, Vélicia, Saryena, Achille, Siwan et West.
L'immigration provoque le racisme. Les gens se sentent menacés, alors ils me haïssent, comme si c'était logique, comme si c'était la seule solution. Là aussi, je ne suis pas moi, je suis tous les autres. Je travaille, je paie mes impôts, mais parce que je suis noir, simplement pour ça, on a voulu me frapper. Un homme s'est approché de moi, un noir comme moi. Il était grand et fort, j'étais tout petit. J'ai baissé les yeux, j'ai reculé, je me suis fait disparaître. Parfois, pour survivre, il faut être lâche. Il ne m'a pas frappé, mais le coup, je l'ai reçu quand même là en plein cœur. Quand je parle de racisme, c'est la première chose qui m'interpelle. Cet homme qui avait peur d'être moi. Cet homme qui avait peur qu'on se confonde de ne plus être lui-même. Ces paroles sont celles de Lovensky. Il a été victime de propos racistes un matin à la Croix-Rouge. Alors que l'Entonnoir Théâtre nous a proposé de participer à la 12e édition de Vivre et dire son quartier et de créer un spectacle, il a raconté son histoire. D'autres ont écrit sur l'héroïsme, la place des femmes, le langage, la mémoire, ou l'esclavage. Tous les textes, mais aussi les danses et les chansons ont été imaginés par nous, les jeunes.
Nous étions plus de 80, âgés de 11 à 30 ans, de toutes origines et de tous milieux, et nous nous sommes retrouvés 6 fois par semaine, du 15 octobre au 15 décembre, pour créer un spectacle « Mon héros, ton héros » avec la collaboration de Karim Troussi et Émilie Malos. Et après 110 heures de répétition, toujours masqués et respectués des gestes barrières, nous avons joué notre spectacle. 10 fois, dans 7 lieux différents, à Kourou et à Cayenne. Pour nous, les jeunes de l'insertion, c'était aussi une expérience professionnelle, puisque nous étions aussi responsables du maquillage, de la régie et des costumes. Mais surtout grâce au théâtre, nous avons pu transmettre nos messages, nos émotions et faire passer par le corps ce que la voix ne pouvait pas toujours dire. Ce spectacle est notre spectacle. Chacun y a apporté ses mots, ses idées, ses points de vue, à commencer par le titre.
En fait, héros, c'est mon héros, ton héros. Héros, le premier héros, on va dire, c'est l'héros, quand on dit un super-héros, Superman et tout. Et le deuxième héros, on va dire, c'est, ça s'écrit d'une autre manière. Ça finit par AUT, c'est-à-dire un messager, un porte-parole. Donc, on n'a pas besoin d'un héros, d'un Superman. On peut être notre propre héros, en fait.
Ben, mon héros, ton héros, c'est par exemple les exemples de la vie qu'on peut avoir. Par exemple, le spectacle, c'était un petit peu sur les mamans, etc. Et du coup, c'est les personnes qui, pour nous, réalisent des choses qu'on peut admirer, justement. Chacun a sa définition du mot héros.
C'est quelqu'un qui vient en aide dans la vie quotidienne, qui t'aide à subvenir à tes besoins.
C'est quelqu'un qui est en difficulté et qui réussit et qui aide les autres à s'en sortir dans la vie. Je ne suis pas encore un héros. Je vais essayer d'être un héros.
Pour moi, un héros, c'est quelqu'un qui représente, on va dire, nos valeurs, qui est capable de nous défendre, de nous révéler, de savoir dire non, justement, de savoir dire qu'on ne veut pas ou qu'on veut faire des choses.
Un héros, c'est quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire pour le bien de la communauté, qui peut nous servir de modèle, de mentor, on va dire.
C'est pas forcément une personne à cap, quoi.
C'est quelqu'un qui veut s'en sortir dans la vie, qui ne lâche pas prise et qui partage avec les autres quand il a. Et que si jamais quelqu'un est dans la galère, il trouve tous les moyens pour l'aider.
J'ai besoin d'un héros parce que j'ai peur. J'ai peur et ça me met en colère contre moi, contre les autres. Je suis la pauvre, l'immigrée, celle qui mendie, celle qui crie, celle qui vole. Tous les Noirs en un seul et pas les meilleurs. Ils oublient les autres, les Senghor, les Césaire, les Luther King, les Mandela.
Alors, le spectacle commence par des danses qui se font en plusieurs groupes. Une fois que ces danses sont finies, il y a 5 femmes qui se lèvent pour dire que non, elles ne veulent plus faire comme les autres, ce qui leur a toujours été demandé de faire. Et donc elles disent non, et ce qui va susciter l'intonation chez les autres, qui vont se poser des questions, qui vont dire que pourquoi est-ce qu'elles disent non, etc. Et qui au final, on va désigner ces 5 femmes qui ont dit non comme des héroïnes, et sans leur demander leur avis. Elles finiront par dire qu'elles ne voulaient pas être héroïnes.
Écartez-vous, j'ai besoin d'air, vous m'étouffez, je ne peux pas répondre à vos attentes. Passer ma vie à rendre la vôtre meilleure? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas parce que vous m'avez désignée comme héroïne que c'est mon devoir d'accepter.
Mais les femmes sont toutes des héroïnes. Hein. Je respecte plus que les hommes même. Mais parce que ma mère c'est une femme. Ce qu'elle a fait pour moi, je pourrais jamais faire pour elle. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les femmes, pour toutes les femmes.
Une héroïne pour moi, c'est une femme qui a des enfants. Elle ne sait pas comment faire pour avoir de l'argent. Peut-être, par exemple, son mari l'a quittée alors qu'elle est enceinte et elle se débrouille. Elle cherche de l'argent pour nourrir ses enfants alors qu'elle est en difficulté.
Moi aussi, j'ai mes propres peurs et mes propres insécurités. Comme vous, j'aimerais avoir quelqu'un sur qui compter.
Ce spectacle, il parle de, on va dire, des gens qui se cachent derrière quelqu'un d'autre ou encore qui attend quelqu'un d'autre pour lui sauver et qui reste les bras ballants sans rien faire, qui attend le Père Noël ou voilà, une super héroïne. Donc ça motive les gens en quelque sorte à prendre leur vie en main par eux-mêmes. C'est ça la morale, on va dire. Yes, we can.
Alors, arrêtez de chercher des porte-paroles. Portez votre voix, rugissez en votre propre nom. Dites ce que vous pensez haut et fort. Ayez le courage d'exprimer vos idées.
Bon, moi déjà, ça m'a permis de jouer devant plusieurs personnes. ce que j'avais jamais fait. Et ça m'a permis de surmonter mon trac, d'avoir plus confiance en moi, parce que j'ai jamais imaginé que je pouvais danser devant des gens, dire des phrases devant autant de personnes. Et pour ça, ben, je me félicite. Ben, avant le spectacle, je savais déjà ce que je voulais faire avec le spectacle. Surtout avec le texte de Lovansky, Être noir, j'ai su que nous, par rapport à notre couleur de peau, on est beaucoup jugés, on est souvent pointé du doigt, on est toujours obligé de faire plus que les autres pour montrer qu'on peut arriver au niveau de tout le monde et que tout le monde est un être humain en fait.
Est-ce que le blanc se considère comme blanc ? Il est blanc, oui, mais avant tout, il est lui-même. Mais moi, parce que je suis noir, je me suis senti exclu. Aux yeux des autres, de ceux qui sont ceux qu'il faut être, notre présence est un affront. C'est un affront que nous soyons au même poste qu'eux, au même niveau qu'eux. Ils nous regardent et se disent « j'ai peur que cette personne me dépasse ».
Donc c'est mon histoire. Quand je lis le texte, je me sens fier et en même temps je me sens triste pour ce qui est arrivé en fait. Je pense que ça pourrait faire prendre conscience aux gens qu'à n'importe quel moment, ça peut leur arriver donc, de subir des actes racistes, même de la part des Noirs comme nous. Donc c'est quelque chose qui arrive, donc c'est important pour moi.
Pour moi, c'est un spectacle déjà sur les jeunes. Les gens ne doivent pas tout le temps se dire que la jeunesse elle est capable de ça. Donc rien qu'en nous voyant jouer VDQ, ça les donne une autre vision de nous en fait.
Tout ce que vous allez entendre, ce sont eux qui l'ont écrit. Ils ont interrogé leur rapport aux héros, aux héroïnes, à l'héroïsme en général et aux modèles qu'ils peuvent porter à l'adolescent moins jeune. Et ils viennent le jouer aujourd'hui, donc pour vous cet après-midi, et ce soir pour tout public. Et pour nous, c'est important que les jeunes se rencontrent entre Cayenne et Kourou, parce qu'au fond, nous sommes convaincus que vous portez les mêmes préoccupations, le même regard sur la société, et que ces temps de rencontre nous semblent véritablement importants.
J'ai appris beaucoup de choses, c'est-à-dire pas forcément sur moi, mais sur tout le monde et également le travail en collectivité.
Comment on va dire ça ? Je me sens ouvert à de nouvelles expériences. Parce que de base, je suis très refermé. J'aime pas trop les nouvelles choses. Mais VDQ, franchement, ça m'a ouvert les yeux à ne pas dire non.
Oui, c'est une belle expérience parce que je savais pas que c'était comme ça. Moi, je me disais que c'est pas fait pour moi. Et quand j'ai fait, je me suis dit non. J'ai fait des trucs que j'ai jamais fait avant. Apprendre à m'exprimer, avoir confiance en moi. Sinon, je vais pas réussir.
En quelque sorte, c'est un spectacle d'éducatif, on va dire, parce que en fait, j'écrivais autrefois, mais depuis 2 ans, j'ai perdu la culture d'écriture. J'ai appris à réécrire, et puis en quelque sorte, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai jamais fait du spectacle, et là maintenant, je me sens à l'aise, je me sens moins timide. Parce que moi, perso, je viens d'une société qui critique tout le temps. Je suis haïtien. Et donc, ça me rend plus confiant, oui.
Nous avons beaucoup appris, beaucoup ri et même pleuré d'émotion. Comme lors de notre dernière représentation. Jamais nous n'aurions pu imaginer un jour être un héros, une héroïne et jouer devant un public. C'est la magie du théâtre et de l'entonnoir. Libérer la parole. Apporter la confiance, créer du collectif et trouver sa voix. À nous les jeunes, mais aussi à ces héroïnes du quotidien. Comme ces 9 mamans sans emploi qui suivaient une formation animée par Joseph Peterson.
Je m'appelle Madame Pereira da Silva Lucidalva. Je suis de nationalité brésilienne. Je suis en formation à Croix-Rouge. La formation, c'est la femme d'avenir. Je fais montrer à beaucoup de femmes que d'autres elles restent à la maison, qu'elles ne pensent pas qu'elles sont capables de faire quelque chose. Et du coup, la formation, c'est pour lever essas femmes et montrer qu'elles sont capables.
Bonsoir à tous.
Je suis Madame Parison Nadège. J'ai 3 enfants. J'ai 33 ans. Je suis nationalité haïtienne. Mon objectif, c'est d'être assistante maternelle, travailler avec les enfants. Je suis en Guyane, ça fait 6 ans. Bon, c'est tout.
Je m'appelle Marson Josette. Je suis haïtienne. Je suis en Guyane depuis 1993. Je voudrais faire agent entretien.
Quand ils étaient arrivés, ils n'allaient pas pouvoir faire tout ça. Ouais. Ils étaient plus timides et maintenant, il y a un travail qui a été fait. Et on voit progressivement que ça avance. Et j'espère qu'à l'avenir, elles auront trouvé vraiment le but, l'objectif, trouver un emploi et pour pouvoir subvenir à leurs besoins et tout ça. Ben, ce que j'aime, c'est qu'elles ont compris et elles essayent d'avancer. Et c'est ce qui me rend heureux dans ce travail-là aussi, de pouvoir aider, accompagner. Tu peux dire tout ce que tu sais faire, en fait?
Bon, moi, je fais les crochets. Je ne sais pas si vous connaissez les filles. Je fais les robes, je fais les tapis, je fais les centres de table. Et ça, c'est mon projet. Là, maintenant, je cherche un travail pour mettre de l'argent à côté, pour plus tard, moi, ouvrir ma propre entreprise. Le théâtre, ça permet de nous parler, d'y présenter. Là, maintenant, je n'ai pas honte de parler devant de vous, devant un public. Mais avant, oui, mais après le théâtre, là, oui, c'est plus facile. Là, maintenant, je suis plus à l'aise pour parler.
C'est l'objectif, en fait, parce que par rapport à tous ces outils-là, ça leur permet de prendre la parole, qu'elles ont plus de confiance en eux. Et parce que aussi, on fait des exercices, par exemple, des simulations d'entretien d'embauche. Comment se présenter, quelles sont les démarches, et comment répondre aux questions, tout ça. On a essayé de travailler sur tous ces points-là. Et c'est pour cela qu'on trouve que 2 heures sur 4 à 5 séances, c'est peu. Voilà.
Elles savent que le chemin sera long, mais elles sont prêtes à surmonter les obstacles et à s'affirmer en tant que femme. Une femme que l'on doit avant tout respecter. Et elles le disent haut et fort.
Normalement, Zavira n'est pas sur la scène. Toi, tu es partie. Josette est ta fille. N'oublie pas. La thématique, là, on va parler de la violence conjugale. On va montrer que une maman et son enfant et un père qui va arriver et qui va être vénère par rapport à la situation qui va se présenter là. Et du coup... on va montrer quelles sont les conséquences peut-être que ça peut avoir soit sur la mère ou sur l'enfant. Et après, il y a les amis, tout ça, qui vont arriver et qui vont essayer de donner de la force à la famille. Elles ont décidé qu'on travaille un peu sur ça pour montrer les répercussions sur la femme, l'enfant, le regard de l'enfant par rapport à tout ça. C'est comme vous voulez.
Bonjour. Ma fille, c'est où ton père? Tu ne savais pas que j'allais rentrer pour manger?
J'ai tout à fait.
Mais regarde à la maison, regarde ça, toute sale comme
mais
ça.
Mais pourquoi t'as pas laissé là, justement?
Et regarde ta fille. Mais c'est toujours comme ça, fâché avec tout ça.
Arrête. Certains d'entre nous ont reconnu des situations de leur vie de famille, de leur communauté. C'était fort et même dérangeant de les voir jouer. Pour elle aussi, c'était la première fois qu'elle s'exprimait en public sur ce sujet.
Ça permet de montrer qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent, non seulement les femmes, comme les enfants, les violences domestiques. Les violences, ce n'est pas seulement être handicapé, mais la violence conjugale.
On pense, parfois, on fait des exercices, on pense qu'on joue. Pourtant, en jouant, on apprend, en fait. Des sujets qu'on ne veut pas parler, grâce au théâtre, ben, on peut être sur scène, on peut être qui on veut et dire les choses que les gens n'osent pas dire tous les jours, en fait. C'est ça, le théâtre.
cet outil-là, c'est un outil, je pense que on pouvait l'utiliser dans les universités, à l'école, pour pouvoir au moins faire ce qu'on appelle de l'art-thérapie.
Moi, je trouve ça bien. Parce que ça se voit dans leur regard qu'ils sont, ils sont plus libérés, en fait. Ça me touche parce qu'elles ont le courage de venir ici et de parler de leurs soucis, de parler du fait qu'elles se déplacent pour ne pas rester à la maison à rien faire. Les violences conjugales aussi, oui, ça me touche. Justement, oui, ça se voit que par le théâtre, elles sont épanouies.
Ben moi, je trouve ça génial parce qu'elles ont du courage d'exprimer.
Alors moi, personnellement, je trouve ça extra perfect parce que déjà, à force de ne pas maîtriser la langue française, tu es très timide envers les gens qui savent parler et tout ça. Faire du théâtre, ça te fait créer des liens. Nous, au tout début de notre formation, on ne se connaissait pas. À force de faire du théâtre, on était comme si on se connaissait depuis longtemps déjà. Donc je pense que c'est leur ressenti.
J'ai une question.
Vous travaillez avec des personnes qui ne parlent pas forcément la même langue que vous et qui ne maîtrisent pas très bien le français. Est-ce que c'est évident tous les jours de pouvoir s'exprimer avec eux?
C'est pas évident, mais grâce à l'outil de théâtre qu'on utilise, on pense que même si on a des difficultés, des barrières de la langue, mais avec le théâtre, je pense que c'est comme si la langue n'existait pas. La personne a le pouvoir de s'exprimer à travers le corps et à travers des exercices qu'on fait aussi. Ça leur permet d'avoir plus confiance, en fait. Et du coup, je prends du plaisir parce que l'année dernière, j'étais ici en stage avec des jeunes comme vous qui étaient en réinsertion professionnelle par là. Ça m'a permis aussi de se remettre en question, en fait, en me disant que quelle chance que j'ai eue, en fait, d'avoir venu ici apprendre et aussi travailler avec des jeunes comme moi. Et du coup, je prends du plaisir à travailler, à accompagner des personnes qui sont en situation, qui sont en difficulté pour s'insérer dans la société.
Avez-vous des projets?
Mon projet, ce serait toujours travailler avec des personnes, les jeunes comme vous, pour les accompagner et aider à améliorer la société, surtout la société guyanaise, les jeunes de cour aussi, parce que c'est important en fait, parce que ça permet de que la société évolue quand même.
Merci beaucoup.
Je suis triste, me réconforte avec ces mots d'amour.
L'avenir, c'est nous.
L'avenir, c'est nous.
Nous sommes 11 jeunes de Kourou. Nous avons entre 17 et 23 ans. Ce qui nous unit est de trouver notre voie professionnelle.
Ensemble, nous avons choisi le documentaire radiophonique pour nous adresser à toutes les générations, où qu'elles soient.
L'avenir, c'est nous.
Pour moi, l'avenir, c'est la réussite.
Bonjour.
Moi, je suis Valentine Bonifaci. Mon parcours, j'ai fait l'électronique et j'ai fait l'informatique pour être analyste programmeur. Je gère le centre de contrôle. Vous voyez le centre de contrôle, il y a le lanceur, c'est moi qui m'occupe de toutes les machines et du temps également, quand on lance la fusée. Tout le monde est capable, tout le monde. Je me souviens quand j'ai fait la formation d'analyste programmeur, il y avait des bac plus 5, des bac plus, moi j'étais avec mon bac moins. Je suis sorti avec mention très bien. Donc, dites-vous que tout le monde est capable, quel que soit ce que vous voulez faire, faites-le bien. Il n'y a que ça qui va vous faire avancer. Soyez bien notés pour qu'on vous respecte. Croyez en vous. Tous les chemins sont bons et nous conduisent à Rome.
Valentine Bonifaci incarne cette volonté. Elle vient d'ailleurs de recevoir la médaille de la Légion d'honneur. Valentine est l'aînée de 8 frères et sœurs. Elle passe son enfance à Sinamari où elle doit se lever chaque jour très tôt pour aider sa mère à préparer et à vendre des gâteaux. Bonne élève, elle perd son papa à l'âge de 16 ans. Alors pour soulager sa mère et parce qu'elle était amoureuse, elle demande au tribunal une dispense, une émancipation pour se marier et parvivre en métropole. Mais elle promet à sa mère de poursuivre ses études. À l'âge de 22 ans, elle a déjà 4 enfants. Elle est diplômée de l'école Pigier en comptabilité et en mécanographie. Puis elle se forme au Centre National des Arts et Métiers. Elle sort première de sa promotion et le CSG lui propose un emploi de mécanographe, mais elle va se battre et gagner le poste d'analyste programmeur. Elle est la première femme de Guyane à occuper cette fonction. Si elle a la tête dans les étoiles, elle a les pieds sur terre et le cœur rempli de bienveillance. Elle a répondu sans hésiter à notre invitation et a passé plus de 3 heures à nous donner une leçon de courage, de détermination, d'humilité.
Vu votre parcours professionnel et personnel, à quel moment vous vous êtes dit que, bon, j'ai réussi ma vie ?
Ma vie, je ne peux pas dire qu'elle a été gâchée, même en tant que petite, jeune. Ma vie était belle, même quand mon père est décédé, on était soudés, il y a de l'amour, vous comprenez ? Pour moi, ma vie a été belle tout le temps. Même dans la misère, comme on peut dire. Dans la restriction, ma vie a été belle parce qu'il y avait de l'amour. Par exemple, il n'y a pas un repas, même si c'est manger que du riz et une boîte de sardines. On le partageait tout ensemble. Et c'était un moment le soir où on discutait avec maman pour ce qu'on faisait à l'école, etc. À nous poser des questions. Vous voyez ? Donc, à chaque fois, c'est une victoire. Quand je suis partie me former, quand je me suis mariée, je suis sortie dans les 3 premières. J'ai eu mon travail. C'était encore une autre petite victoire. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais c'est des petites victoires à petites victoires à petites victoires à petites victoires.
Alors oui, moi j'aimerais vous demander si par rapport à vos enfants, c'était facile, surtout de choisir entre les enfants et le travail, si ce n'était pas un sacrifice pour vous.
Moi je dis que tout est question d'organisation. Vous voyez, à 22 ans, j'avais mes 4 enfants. Je travaillais la journée, le soir j'allais en cours du soir, parce que je leur dis, maman va à l'école, demain maman va gagner un peu plus, et vous aurez plus de choses, l'enfant comprend. Ils veulent aider. Et pour eux, c'était une fierté. Alors j'ai dit, maman va réussir, mais vous devriez réussir aussi. En même temps, je les stimulais. Allez au maximum où vous pouvez aller. N'abandonnez jamais. Et si vous abandonnez, vous avez envie de recommencer, on recommence. Et il n'y a pas de sacrifice. Ah, c'est sûr que dans la vie, on a des moments de découragement. Mais il ne faut pas baisser les bras. J'ai été divorcée avec 4 enfants. Donc j'ai eu des moments de découragement. Mais quand je regarde les yeux là, les yeux des petits là, qui vous regardent, il faut aller continuer. C'est vrai que le soir après, une fois j'étais dans ma chambre, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais devant mes enfants, il fallait rester au top, hein, découragé ou pas. Et tout ça, ça nous fait grandir. J'ai dû me réinventer, comme on dit. On s'adapte, on se réinvente, tu te réorganises et tu progresses. Voilà, tout simplement. Vous ne pouvez pas imaginer la chance que vous avez. Parce que vous avez beaucoup de choses pour vous permettre de réussir qu'on n'avait pas nous à l'époque. Si on avait eu ça à l'époque, Ouh, on aurait décollé. Voilà. Parce que la place, il a fallu le faire. Hein. À tous les niveaux, hein. Même à l'école, quand on allait à l'école. Hein. Puis nous, à l'école, ce qu'on était, on aimait bien, c'était la compétition entre élèves. Et ça a permis cette idée de compétition mûrir. Tandis que maintenant, j'ai l'impression que vous vous laissez aller, les jeunes. Vous vous démoralisez rapidement. Il ne faut pas. Il faut avoir cet esprit pour avancer. J'ai répondu à ta question ?
Oui.
C'est un parcours, c'est des valeurs que je défends, qu'on m'a inculquées, que j'essaie de transmettre.
Alors moi, j'ai trouvé très enrichissant de vous connaître, parce que moi-même, je suis mère de famille, j'ai 5 enfants, et c'est pas facile tous les jours, mais j'essaye d'aller de l'avant pour eux, justement. Et comme vous, quand je leur ai dit que je vais à l'école, ils se moquent de moi, ils sourient, ils disent « Ah, c'est bien ». Et je trouve que ce que vous avez dit, ça va me permettre à moi que mes projets aboutissent et de ne pas lâcher prise. Je vous remercie pour ça.
Pour moi, c'est tout à fait normal. C'est vraiment avec plaisir, ça sort du cœur. Hein. Et donc, si j'ai pu vous apporter de l'éclairage ou quelque chose, je suis très heureuse, si j'ai pu.
Madame, j'ai une photo.
Ah oui, on y va. À l'âge de mon petit-fils.
Merci à vous, madame. Madame, vous êtes... J'ai même pas les mots. Tout ce que vous avez dit là, franchement, c'était marquant. Hein.
C'est bon, vous pouvez réussir. Vous pouvez être comme madame, d'accord? Vous pouvez, tous vous pouvez le faire. Donnez-vous les moyens. Dites que je peux. Tout le temps. Et vous allez réussir, vous verrez. Tu veux faire?
Non, bon, je sais pas... Non, je suis un dessin. Hein.
Cinéma... Je sais pas, bon, il y a plein de choses.
Il y a plein de choses, mais le problème, c'est que je sais même pas. Je réfléchis tous les jours à ça, mais en vrai, je sais pas. Aujourd'hui, je dis ça, après, demain,
qu'est-ce
je sais
que
non.
Tu aimes déjà faire
hein? Ce que j'aime, je pense que ce que j'aime faire, j'aime apprendre aux autres. Mm-hmm. J'aime partager des valeurs, mm-hmm. Ce genre de trucs-là, ça, j'aime ça beaucoup. Aider les autres.
Tu veux aider les autres, mais dans quoi?
C'est ça que je sais pas encore.
C'est ça. Mais il faut, tu dois pouvoir aider dans ce que tu sais faire. Ou que tu aimes faire pour toi-même. D'accord? Et quand tu auras trouvé ce que toi, tu aimes, tu pourras faire pour aider les autres avec ce que toi, tu aimes. Tu vois?
Mais écoutez, déjà comme ça donne envie. Hein. Quand elle dit que tout ce qu'elle a fait pour aider les autres et tout, parce qu'elle a reçu beaucoup d'amour, donc elle redonne cet amour, c'est juste magnifique. Comme elle dit avec le courage et avec une croyance en soi, on peut y arriver. Et franchement, elle m'a motivé. Je veux savoir pour vous, madame, pour vous, c'est quoi la valeur du partage pour vous?
Pour moi, partager, c'est donner sans compter. Tu calcules pas ton temps. D'accord?
Okay.
Tu calcules pas l'argent, tu calcules rien. C'est ça, donner. C'est le don de soi.
On partage aussi des fois sans avoir conscience.
Voilà. Quand tu partages, tu reçois automatiquement, sans même te rendre compte, tu reçois. Tu ne donnes pas pour recevoir, mais tu en reçois tellement.
Si je suis sur Terre, c'est pour être serviable.
Oui.
Surtout servir mon prochain.
Et tu voudrais servir dans quoi?
Tout d'abord, je souhaiterais intégrer les forces de police.
Ah, ok. T'as les polices, au cas où ça marche pas, t'as les pompiers aussi.
Oui.
Eh ben oui, c'est le secours aussi.
Oui.
Si c'est, t'as la gendarmerie, t'as l'armée également.
Oui.
T'as plusieurs voies où tu pourrais intégrer.
Oui.
C'est très beau, oui.
Quand tu as parlé, c'est là que j'ai su qu'on ne peut pas tout faire du premier coup, quoi. Il y a différents chemins tu peux emprunter pour arriver à destination.
Tout à fait. Même si sur le chemin, il y a des embûches, tu recommences. Mais tu arrives où tu veux arriver.
Il faut persévérer.
Quand vous parliez tout à l'heure, j'ai eu des frissons rien que par rapport à tout ce que vous avez fait. C'est pas que je me vois en vous, mais vous me donnez la force de continuer, de pas lâcher prise, même si des fois j'ai envie d'abandonner, mais je lâche pas pour mes enfants.
Donc si un jour tu sens que ça vacille, tu m'appelles. D'accord. Mais je rappelle toujours.
D'accord. En tout cas, ça a été un honneur pour moi de vous avoir rencontré et que vous avez partagé. Par rapport à tout ce que vous avez fait, vous me donnez la force de continuer et de me battre. Et aujourd'hui, je vais me donner les moyens pour arriver à ce que je veux faire. Et ça, c'est grâce à vous.
Mais si j'ai pu au moins t'inciter à aller au bout, je suis vraiment très fière.
Déjà, pour toi.
Et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour venir à notre rencontre.
Non, mais c'est vraiment avec plaisir que je suis venue. Vraiment avec plaisir pour vous rencontrer. Parce que pour moi, la jeunesse mérite... Tout le monde mérite, hein, mais la jeunesse plus que tout en ce moment. Donc vraiment, on incite la jeunesse à se dire, quel que soit le métier qu'il veut faire demain, il peut le créer pour son propre compte.
C'est vrai.
C'est le seul moyen. Mon rêve, c'est que tous les jeunes travaillent.
C'est déjà un bon rêve.
Se développe pour que tous les jeunes aient du travail. Voilà, et qu'ils trouvent leur voie, tout à fait.
Et qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils font.
Tout à fait, très important.
En tout cas, moi, par exemple, un jour, peut-être avoir une entreprise, ou en tout cas être épanoui dans mon travail, etc.
Continuez et battez-vous pour votre avenir, tout simplement.
Oui, ça motive beaucoup, franchement. Quand je repense à tout ce que vous avez fait, je me dis, wow, si c'était moi, est-ce que j'aurais réussi? C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que ça, par moment, vous n'avez pas eu des moments de relâchement, ou juste, voilà, où vous vous êtes dit que c'était dur et que peut-être vous n'alliez pas y arriver, parce que moi, je pense que ça m'aurait arrivé peut-être très souvent, quand même. Je
pense. Même quand on voit que c'est dur, mais on se dit, on est capable de... On se motive, il faut s'auto-motiver. Il ne faut pas bosser les bras, il faut s'auto-motiver. Il faut vouloir dans la vie. Vouloir, c'est pouvoir.
C'est vrai.
Pour moi, ce serait la conclusion.
La volonté.
La volonté. Quand on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir. Et le pouvoir, c'est de vouloir.
Effectivement. Non, je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est vrai. Super slogan, ça.
Vraiment un super moment là, je crois que j'ai plus reçu que j'ai
alors,
donné.
Ah bah c'est parfait alors effectivement.
Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'était vraiment fantastique. Hein.
Merci.
Aimer l'autre et aider son prochain sont des valeurs qui ont toujours guidé Valentine Bonifaci. Dès son enfance, elle intègre le mouvement Cœur Vaillant, Âme Vaillante, puis devient bénévole dans des associations caritatives comme Amnesty International ou Soroptimiste. Elle y soutient et accompagne les plus vulnérables, à commencer par les femmes. Elle finit par créer en 2005 les Premières de Guyane, un incubateur d'entreprises réservées aux femmes. C'est aujourd'hui sa priorité, pour que la femme ne soit plus discriminée dans le monde du travail, mais épanouie et plus encore.
La femme doit être émancipée, une femme de son siècle. C'est ma mission. Là, nous sommes devant les locaux des Premières, qui aident les porteurs de projets, femmes ou des projets mixtes, à créer leur entreprise. On les accompagne de l'idée à la création et un suivi personnalisé pendant plus de 5 ans. Une femme doit prouver deux fois plus ce qu'elle est capable de faire. On essaie de faire avancer les choses. On ne baisse pas les bras, surtout. Parce qu'on a fait, c'était pour lever les freins pour les femmes. Aujourd'hui, on tourne à 100 porteurs de projets par an. Fin 2019, il y avait 296 projets encore en cours. Le centre d'appel, c'est nous. Bisouer Cacayenne, c'est nous. Cacao Givré à Cacao, c'est nous. On a créé 70 entreprises en 6 ans. J'ai une porteuse de projet qui a fait Royal Multiservice. Elle me disait, Madame Bonifaci, vous ne pouvez pas savoir, depuis que j'ai créé mon entreprise, mes enfants me voient avec un autre œil. Et aujourd'hui, elle est contente, elle m'a appelé là encore pour le nouvel an, elle m'a dit, ça y est, que son fils était vraiment parti dans le mauvais chemin. C'était la drogue, c'était ça. Elle me dit, maintenant, Madame Bonifaci, mon fils travaille, et il travaille avec moi. Vous voyez un peu la répercussion? Et elle me dit, elle se sent digne. Une porteuse de projet nous dit, ça pour nous, on a tout gagné. Hein.
J'avais un rêve, genre créer une association pour pouvoir envoyer quelques médicaments et tout dans mon pays. Et je ne sais pas comment il faut faire pour créer cette association, quelle étude il faut faire pour pouvoir le réaliser.
Alors, pour créer l'association, c'est très facile, hein, contrairement à l'entreprise. Mais par contre, si tu veux la gérer comme une entreprise, c'est exactement pareil. que vous soyez au moins 3. D'accord ? Mais avant, il faut décider, est-ce que vous aurez des cotisations ? Il y a les statuts juridiques de l'association à mettre en place. J'ai redit la dame qui a repris Guyane Alzheimer. Donc, il y a, on peut, si jamais ça t'intéresse, on peut le faire. Quand l'entreprise est créée, on vous suit pendant 5 ans. Vous inscrivez chez nous, toutes les formations sont gratuites. Vous ferez du management, de la comptabilité, de la gestion, ressources humaines. Vous avez également des formations sur savoir lire son business plan, comment défendre son business plan avec un banquier. Vous aurez sur les statuts juridiques et savoir être professionnel et relationnel. Vous voyez, donc il y a toutes ces formations qui sont mises en place pour être un bon chef d'entreprise, tout simplement.
L'avenir, c'est nous.
L'avenir, c'est nous.
L'avenir, c'est nous.
Alors, la formation dans laquelle nous sommes aujourd'hui s'intitule « Savoir être relationnel et professionnel ». Donc, la première vignette, le recruteur lui pose la question « Qu'est-ce que vous savez faire ?» Et la personne répond « Rien ». Elle nuance sans rien, pas « Je sais être ». Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il veut nous dire dans « Je sais être » Mesdames.
Elle sait recevoir, faire de l'accueil.
Elle sait faire de l'accueil.
Orienter les gens dans l'entreprise, quoi.
Orienter la personne dans l'entreprise. Et quand cette personne dit « je sais être », oui, peut-être elle n'a pas de technicité particulière, mais au moins, elle saura se comporter et ça va être la plus-value au-delà de la technicité qu'elle n'aura pas forcément. Depuis le début, je suis la psychologue qui reçoit les personnes dans le cadre du processus d'intégration au sein des Premières de Guyane. Je crois à la création d'entreprises, je crois aux femmes et c'est important effectivement de les accompagner. Je m'appelle Karine Petchi et j'anime cette formation du savoir-être relationnel et professionnel.
Combien de temps dure la formation ?
La formation, elle dure 20 heures.
Qu'est-ce qu'ils apprennent ?
Ça va être effectivement de la transmission de savoir théorique, mais c'est également faire du lien avec ce que ces dames souhaitent faire et leur thème d'activité professionnelle. Donc si on vous demande à vous qu'est-ce que vous savez faire et vous allez répondre « je sais être », ça voudrait dire que vous êtes en capacité d'accueillir et d'orienter ?
Oui, j'ai appris mon comportement avec les clients, avec mon employé, même avec la famille aussi. Beaucoup de choses que j'apprends.
Madame, elle veut ouvrir une boulangerie ambulante. Et la façon dont vous allez vous comporter, on va dire, vous êtes dans un savoir-être. Comment recevoir sa clientèle et avoir une capacité suffisamment d'ouverture, puisque c'est le client qui vient et non l'individu en soi. Madame, elle veut ouvrir un salon d'esthétisme.
Je m'appelle Sharon, je suis surinamienne.
Et là aussi, là, on ne peut pas être plus dans l'accueil et dans l'attitude, le comportement, la posture professionnelle. Tout cela fait partie notamment du savoir-être relationnel. L'attitude est vraiment importante si on veut garder un tant soit peu sa clientèle. Madame, c'est la restauration à Maripasoula. Il est important qu'on travaille sur ce savoir-être dans l'attitude, dans le comportement, déconstruire certaines croyances, de la tortue par exemple. Ça fait partie d'un plat traditionnel, mais dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il serait important qu'elle travaille sur cet élément, car peut-être la tortue n'est plus autorisée à être mangée.
Chaque fois pour moi, ça a été des découvertes. J'ai déjà suivi la partie juridique, économique. En fait, en tout, j'ai suivi 3 ou 4 formations. Lorsque les premières m'ont prise à charge, j'ai vite réalisé que mon projet a été précipité de l'avance. C'est magnifique, c'est dans le feu. Il faut y aller, il faut foncer. En fait, ce sont des outils qui m'encouragent. En étant là, ça dit, vas-y, tu y arriveras. Quand on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir aussi.
Elle nous a montré que nos rêves pouvaient se réaliser. Seule l'envie, la volonté et le travail doivent nous guider. Les hommes, eux, ne sont pas exclus. puisque première, cette année, va l'en accompagner, dans leur projet de création d'entreprise. Aujourd'hui, première, c'est 296 projets, 296 rêves, 70 entreprises créées et des centaines de projets à venir.
L'avenir, c'est nous.
Quand on veut, on peut.
L'avenir, c'est nous.
L'avenir, c'est nous. Pour moi, l'avenir, c'est l'apprentissage.
L'avenir, c'est nous.
Raserie Corps d'Industrie.
Voilà, maintenant, non, non, rien de moins, c'est non, non. A pas rien que m'en débander ceci. A pas rien que m'en débander cela. Puis le lendemain, te coucher en ton lit. T'auras quand même lever tôt le matin pour aller à cela. Pour faire, c'est pas qu'à lever journée. Donc, si t'as gain bête pour faire demain. Pour bird à photo, lever tôt. Passe au fond, life, faut nous goûter. C'est pas qu'à lever journée, donc si t'as gain bête pour faire demain. Lever tôt, passe au fond, life, faut nous goûter. Et puis bye, mon nom, mais pour. Oui, le lendemain, dans mon trappé, on dit peine. Nous peut partager des mots frères, maudit, oh bye, mon nom, mais. Oui, le lendemain, dans mon trappé, on dit peine. Nous peut partager des mots frères, et nous on croit pas la chance. Pour nous, soit t'es béni, soit t'es maudit. Boss, fala, y'a pas qu'à la y'a poussa, y'a pas qu'à molly. Daddy, n'yo, n'yo, risol, y'a pas qu'à tel badakali a envie. Professeur pas qu'à lever journée, donc si t'as gain bête pour faire demain. Pour brûler la photo, lever tôt, passe au fond life, faut nous goûter. Professeur pas qu'à lever journée, donc si t'as gain bête pour faire demain. Lever tôt, passe au fond life, faut nous goûter. Nous qu'à travailler, j'ai de là. Passer maman, papa, pas télé, nous tourner out là. Oh God, nous toujours mener nous combat. Tracer nous pas chemin, passe nous pas les rêter en bas. Non, non, check, une fois mettez de quoi encore un homme. L'amour, paix, bonheur, c'est le Seigneur qui nous le donne. Pour sa hot nip, c'est BL Star, nous gain love. Quand on est à quelle musique, nous qu'est fait comprendre que. Professeur pas qu'à lever journée, donc si t'as gain bête pour faire demain. Mon brother photo, lever tôt, passe au fond life, faut nous goûter. Professeur pas qu'à lever journée, donc si t'as gain bête pour faire demain. Les cowboys, lever tôt, passe au fond life, faut nous goûter.
L'avenir, c'est nous. Pour moi, l'avenir, c'est la confiance en l'autre.
L'avenir, c'est nous.
Pour moi, l'avenir, c'est la solidarité.
Mais pour vous, c'est quoi le consentement ?
C'est que tu es d'accord, quoi. Si tu donnes pas ton consentement, c'est que tu ne veux pas.
Lorsqu'il n'y a pas de consentement, ça devient quoi ?
Une agression sexuelle.
De l'abus.
Quelles conséquences ça a, du coup, lorsqu'il n'y a pas de consentement ?
Une personne peut finir choquée à vie, je pense, de se faire agresser sexuellement.
Effectivement, c'est bien ça. Est-ce que ça a des répercussions ? C'est puni, c'est pas puni ?
C'est puni.
Est-ce que pour vous, lorsqu'une personne ne vous répond pas, vous le prenez comme un oui ou comme un non ?
Ça, c'est un direct.
Sans oui, c'est non, en fait. Juste une question. Est-ce que c'est possible qu'une des deux personnes puisse changer d'avis ?
Je pense que c'est possible. Si par exemple, pas parce que tu as commencé que tu es obligé de finir, t'es pas obligé de terminer et la personne en face elle est obligée de respecter ton choix.
Pourquoi commencer si tu veux pas finir ?
Excuse-moi, mais ben ça se peut, ça peut arriver.
Donc si t'arrives devant la porte là, c'est là que tu vas dire que non.
Moi personnellement je pense comme Axel hein, et je suis contente qu'un garçon dise ça. Et je pense, Wallicia, qu'un jour tu vas penser différemment parce que si par exemple t'arrives dans une situation où au final tu veux plus, tu vas pas te forcer.
Personnellement, je demande qu'est-ce qui va pas, etc. Si elle veut continuer, si elle veut pas continuer, ben on continue pas. Chacun fait son chemin. Oui, je suis sûr de moi, à 100%. Je ne suis pas un violeur.
Moi, je vais insister. Peut-être qu'elle a un petit doute.
Le oui, un peu peut-être, vaut mieux pas se lancer en fait, du coup. Mais on peut changer d'avis à la dernière minute, c'est possible.
Sexualité et consentement. C'était le thème de la discussion proposée par Josica Juste, une jeune animatrice de 22 ans de l'association ADER, qui intervient dans les collèges, les lycées et les associations pour informer les jeunes sur la santé sexuelle et reproductive, prévenir des risques et lever certains préjugés.
Ils sont encore 27% à penser qu'une fille habillée en mini-jupe ou portant un décolleté provoque les hommes. Et 6 Français sur 10 estiment que les hommes ont plus de mal à contrôler leurs pulsions que les femmes. Ces chiffres nous choquent, en particulier nous les femmes. nous connaissons toute une personne qui a été agressée sexuellement. D'ailleurs, un Français sur 10 aurait été victime de viol ou de tentative de viol. Pourquoi de tels actes ?
Est-ce une question d'éducation, de respect ?
Le consentement est-il une affaire de sexe ?
Est-ce plus facile de dire non quand on est un homme ou une femme ? Des questions délicates que nous nous posons, et pourtant nous n'en parlons pas, ou si peu. Parfois entre garçons, entre filles, mais rarement ensemble. Pour la première fois, avec Josica Juste, nous avons parlé pendant 3 heures sans jugement, sincèrement. Elle nous a proposé des jeux de rôle inspirés des techniques du théâtre forum pour que nous puissions nous exprimer spontanément sur le sujet. Axel et Achille se sont lancés en premier.
Vous êtes prêts ?
Oui.
Ben, action du coup.
Amandine, on n'allait pas regarder Netflix.
On va dans la chambre ?
Allez, on va dans la chambre.
En fait, j'ai plus envie, hein.
Mais arrête, je t'ai dit, je suis amoureux de toi, je t'aime à la folie, tu veux pas ? Je t'ai dit ça plusieurs fois, arrête.
C'est bien, tu vois, c'est bien, mais moi, j'ai dit non. J'ai dit non, ok. J'ai pas envie, t'es peut-être amoureux de moi, je le suis pas. Tu respectes mes choix.
Pourquoi tu me fais ça ? Je t'ai présenté à ma mère et tout. Pourquoi tu fais ça ? Regarde, en plus, Bob, il est tout dur, là. Tu fais quoi ?
Ok, j'ai tout coupé. C'était bien joué. Donc, du coup, vous redevenez Axel et Achille. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Ben, c'était comme si c'était vraiment vrai. J'étais dans cette situation-là. Moi, j'allais sauter sur la fille. Hein. Non, je mens. Mais si elle me dit non, moi je vais arrêter une prochaine fois.
Hein. Moi franchement j'ai trouvé ça gênant de ouf. Et puis ben, si c'était dans la vraie vie, il aurait peut-être dû, Ludo, aurait peut-être dû demander pourquoi au lieu de dire que son Bob était tout dur.
Tu dis, tu comprends ce qu'on peut vivre des fois au quotidien. Enfin, comment on peut y remédier à ça du coup ? Au fait qu'il n'arrive pas au stade de supplier, de demander, d'insister. Juste non et qu'il se rétracte.
Mais c'est pas elle.
Ben moi je vais vous inviter à faire un petit jeu. Le but de ce jeu en fait, c'est qu'en fait vous puissiez vous imposer face à une réponse que vous allez donner. Là on va partir sur le non, d'accord ? Plus je vais m'avancer, il faudra que tu me dises non. D'accord ? Donc toi, tu bouges pas, je m'avance. D'accord ?
Non. 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 Non.
Non.
Qu'est-ce que tu as ressenti ? Je me suis avancée, tu m'as dit non, mais je ne me suis pas arrêtée en fait. Qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment ?
C'est que tu ne me respectes pas, quoi. En fait, tu rentres dans mon espace privé, quoi.
Tu as ressenti quoi ? De la colère ?
Oui, on peut dire un peu.
De la colère ?
Oui. Du dégoût.
Malika ? Je vous invite à le faire aussi.
Non. Non. Non.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, même s'il a haussé le ton, mais elle ne s'est pas arrêtée, elle a continué à avancer.
Non, mais il s'est passé quelque chose d'important.
On dirait que Malika, elle était terrifiée à un moment. Enfin, elle a tremblé, non ?
Oui, mais il s'est passé quelque chose d'important. C'est au moment où Malika, elle avançait, il avait dit un non, elle voulait se rétracter, mais elle a dit non, je vais. Et après, c'est arrêté. Vous voyez à quel point c'est possible de changer d'avis à la dernière minute. Alors du coup, Malika, qu'est-ce que tu as ressenti ?
De l'hésitation, en fait. En fait, ça m'a fait peur, son dernier non. Parce qu'il a vraiment crié et j'ai ressenti que lui, il voulait vraiment pas. Du coup, je me suis arrêtée.
Levinsky, qu'est-ce que tu as ressenti ?
Déjà, dès le premier non, elle aurait dû s'arrêter. Et là, elle a avancé. C'est comme, vous voyez, vous regardez le foot ? Vous voyez les 5m50 du but, c'est comme si elle voulait rentrer sur mon 5m50 en fait.
Donc du coup, Axel et...
Siwan.
Non. Non.
Est-ce que tu t'es arrêté parce qu'en fait tu voulais pas aller plus loin ?
Exactement.
C'est vraiment l'objectif, c'est que dès qu'il commence à faire son premier pas, que vous arrivez à sortir le non, pour vous en fait, qui est censé être convaincant. Vas-y, du coup, Esther.
Non. Stop. Non. Non, mon.
Alors du coup, Esther, pour toi, tu continuais. Hein.
Ben
tu ne t'arrêtais pas.
Ben oui, parce que il ne m'a pas dit non. Il m'a dit peut-être.
Moi, vraiment, ce que je voulais, c'est que le non, ça parle. Mais des fois, rien que l'expression du visage, ça veut tout dire. D'accord. Ben, je te remercie, ouais, c'est Esther. Du coup, Siwan et Axel.
Non.
non.
Ça, ça veut dire que tu pouvais avancer.
T'entends non très fort avec un mec qui fait ça et tu sais que...
il disait un non comme s'il n'était pas...
Bah, du coup, je vous invite à recommencer.
Allez. Non. 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 Voilà.
D'accord. Pourquoi tu t'es arrêté, Siwan?
Parce qu'elle a dit un vrai non.
Grâce à ce jeu, nous avons pris conscience de l'importance d'imposer son consentement, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas dans la réalité, et nous avons pu tous l'affirmer. Même si parfois la situation était gênante, voire honteuse, mais tout s'est compliqué quand il a fallu apprendre à dire non, calmement et à gérer nos émotions.
Non. 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 Je t'ai dit non. Non, 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 non et non.
On est d'accord que c'est dur.
Ouais.
Vous voyez?
Ouais, c'est vrai.
Donc je vais t'inviter à avancer, donc moi aussi il faut que je stresse. Non. 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 Ah, non.
C'est convaincant là.
Pourquoi c'est convaincant?
Un nom ferme, plutôt ferme, on va dire.
Non mais tu as vu quoi sur mon visage?
C'est un peu de la colère, on va dire, un peu fâché, non?
La colère, mais quoi aussi?
Quelqu'un de chaleureux.
Pas du tout, il avançait, je stresse, je tremble, j'ai peur, je fais pas semblant. J'allais pleurer parce qu'il avançait alors que je lui disais non. La preuve comme quoi vous avez pas compris en fait que je voulais vraiment pas qu'il avance. Vous voyez un peu?
Ouais.
Vraiment le fait de dire non, sourire, vous vous le voyez comme un oui alors que normalement la personne en face de vous est censée prendre votre non. Sérieusement, lorsque vous dites non, c'est que c'est non, il n'y a pas de retour en arrière. Tant que vous n'avez pas changé d'avis vous-même, c'est non.
Ouais.
D'accord? Du coup, je vais vous inviter à souffler un bon coup parce que même moi, j'en ai besoin. Souffler.
Josie a elle-même été victime de violence et a dû apprendre à dire non. Son émotion était visible et cela nous a un peu déconcertés. Et nous avons compris qu'au-delà du malaise, il était important d'en discuter tous ensemble, de s'écouter même si nos avis étaient différents et d'aller au-delà des préjugés.
Selon vous, en fait, pourquoi la femme dirait moins non que l'homme, en fait? Pourquoi elle dirait moins non étant donné qu'elle a le statut de la plus faible?
Elle est tout le temps confrontée à ça. C'est la vie.
Si. Pourquoi ce ne serait pas l'homme qui dirait moins non? Selon vous, en fait, comme c'est l'homme qui prend des initiatives, on va dire lors des rapports sexuels, donc la femme, elle est susceptible de dire moins non que l'homme,
pas
en fait.
Pas forcément, certaines femmes prennent des initiatives aussi, c'est pas
cool. Ouais, donc ce qu'on dit, c'est pas... Moi, la femme, elle est égaux avec moi, il n'y a pas de problème, on est ensemble.
Celles qui ne sont pas dans la capacité de s'imposer, est-ce que c'est parce qu'elles ne veulent pas ou parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent le faire?
Parce qu'elles ont trop l'habitude d'être en position de victime, donc elles se mettent en position de victime.
Peut-être que quand elles ont dit non, ça leur a rapporté peut-être plus de problèmes qu'autre chose, et que, et bah, du coup, elles se sont dit que bah, ce serait plus facile de ne pas le dire, en fait. Voilà, malheureusement.
Effectivement, c'est ça, mais c'est parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent dire non. C'est-à-dire, elles ne savent pas qu'elles ont de quoi, en fait, avoir recours pour que ce non soit respecté. Elles ne savent pas. Moi, j'ai des collégiens qui m'ont sorti, ils ne savaient pas que lors d'un rapport sexuel, lorsque la personne disait non, eux, ils sont restés sur le fait que non, je force. Sauf qu'ils ne savaient pas que c'était puni par la loi. Donc du coup, tout le monde était étonné. Ah, c'est vrai. Il y a des hommes aussi, ils n'arrivent pas à dire non. Comme des femmes n'arrivent pas à dire non. En fait, c'est tout le monde. Tous deux, que ce soit l'homme ou la femme, les deux ne méritent pas d'être victimes de violence. En gros, on peut conclure que les deux, en fait, peuvent dire non.
Tout le monde peut dire non. Hein. Voilà. Si une femme me dit non, moi, je respecte. Hein. C'est son choix. Hein.
Après, voilà, nous, on est élevé avec des petites sœurs et tout. Moi, je vais me dire que peut-être c'est ma petite sœur le demain qu'on peut faire ça avec elle. Donc,
voilà quoi. Hein.
Ce que je veux juste que vous reteniez, c'est que en fait, le non n'a pas forcément besoin d'argument. On peut changer d'avis à la dernière minute. On ne veut pas forcément argumenter. Peut-être que sur le moment, on ne se sent pas prêt. Il faut savoir que le non, en fait, n'a pas besoin d'argument.
Pour moi, si. Hein. Vous devez me dire non parce que ça. Si. Et je vais comprendre.
C'est un choix, c'est mon choix. Wow. Mon objectif aussi, c'est de amener en fait à l'ouverture d'esprit, qui se rendent compte que certaines choses en fait nous a été un peu aussi obligées par la société et que le fait d'avoir un esprit ouvert nous permet en fait d'exprimer notre opinion à nous par la suite et aussi en ce qui concerne la santé sexuelle qu'on a certains droits et que on peut les faire valoir et que on peut aussi s'en protéger. Donc voilà, je vous remercie vraiment.
Merci.
Déjà, c'est un sujet dont on parle presque pas, du moins pour moi, dans la culture d'où je viens. Donc, c'est pas évident de parler de sexualité avec les enfants. Donc, du coup, j'ai appris pas mal de choses. Par exemple, sur le fait que quand une femme dit non, c'est non. Donc, j'ai appris avec la scénette qu'Axel a joué avec Achille que vraiment, quand on insiste avec une femme, au lieu d'obtenir quelque chose sur le coup, on la fait fuir.
Les garçons, eux, ils sont vraiment, comment dire, dans le forcing, on va dire ça comme ça.
Mais si t'es pas exigeante avec eux, ils vont pas arrêter. Ils vont toujours continuer. Ah oui, ils sont pas matures, hein.
C'est aussi la manière dont on a été éduqués, hein. Comment dire,
la sexualité, on va dire, ouais. Ben, comment tu dois être. Des hommes, non, ils vont pas te parler de ça.
Ben, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de parler de ce genre de sujet, de consentement, de relations sexuelles, etc. Et je trouve ça bien d'instaurer ce genre de structure pour nous permettre d'en discuter librement et spontanément, on va dire, parce qu'en général, ce sont des sujets tabous. Et j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien et j'ai aimé parler de ça, j'ai aimé donner mon avis et discuter avec les autres, connaître leur façon de penser sur ce sujet.
Ben moi, j'en retiens que un non, c'est pas tout le monde qui sait le comprendre en fait. Mais j'ai vu qu'avec mes camarades, pour eux, il fallait dire un non avec une voix insistante pour que les gens puissent s'arrêter. J'étais choquée en fait. Parce qu'elle n'est pas obligée de crier pour qu'on puisse entendre son nom. C'est bien d'entendre les avis des autres, parce que ce qu'on pense, ce n'est pas forcément ce que l'autre y pense. Donc je trouve que c'est bien de s'asseoir autour d'une table et de discuter de ça, en fait, pour avoir l'opinion de tout le monde.
J'ai appris qu'on pouvait dire non. Tout le monde peut dire non et accepter le choix de la personne.
Maintenant, on va demander à Madame Gaëlle qu'est-ce qu'elle a pensé de tout ça. Elle qui, je le rappellerai, la première fois qu'on devait parler de ça, ne voulait pas qu'on en parle.
Au début, j'étais pas très à l'aise. J'en parle pas quand il y a les garçons, j'en parle toujours quand il y a des filles. Du coup, j'étais pas très à l'aise, même d'entendre les avis des garçons. Il y a des choses que les garçons font que je n'apprécie pas du tout. Comme par exemple, Agile, qui a dit que lui... Il va insister. Mais si la personne de devant t'a dit qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle ne veut pas. Mais toi, tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à tes plaisirs. Alors qu'il faut penser aux autres aussi.
Et ce n'est pas normal. On vit dans une société où normalement, quand quelqu'un dit non, normalement c'est bon. Voilà, on est dans un pays libre, mais il faut se respecter les uns les autres.
Il faut toujours écouter son prochain si vous voulez bien
avancer.
Ouais, il faut toujours être à l'écoute.
L'avenir, c'est nous.
L'avenir, c'est nous.
L'avenir, c'est nous.
À travers toutes ces rencontres, nous avons voulu témoigner de nos rêves, de nos révoltes et apporter notre regard sur cette société qui ne nous écoute pas, qui ne nous comprend pas et qui manque de tolérance à notre égard. Nous ne voulons plus entendre parler de cette jeunesse sans espoir. Nous voulons changer les mentalités. Faites-nous confiance.
Nous avons tant de choses à apporter. Notre volonté, notre force et notre détermination. Nous voulons nous battre pour notre avenir, mais aussi pour la Guyane, ce département que la France oublie trop souvent. Nous sommes prêts à manifester comme en 2018 pour que nos droits soient respectés et que nous soyons entendus. L'avenir, c'est nous. Et malgré l'épidémie et un futur incertain, nous ne nous laissons pas aller et construisons ensemble un avenir qui nous ressemble.
Un documentaire réalisé avec le soutien de l'Entonnoir, Anne Pastor, Bertrand Chaumeton, Garance Vallée, Jalène de Triolet et Maurice de RKS.
L'avenir, c'est nous.
L'avenir, c'est nous.